France Culture.
C'est le journal de la rédaction. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Les États-Unis emploieront la manière douce ou la manière forte pour s'emparer du Groenland. Les derniers propos bellicistes de Donald Trump hier soir suscitent une levée de boucliers sur l'île arctique. Que cela soit dans la population ou au sein de la classe politique, nous le verrons. La répression s'intensifie en Iran. Malgré la coupure d'Internet, les manifestations aux revendications économiques puis politiques sont de plus en plus réprimées par le régime. Enfin, ils espèrent être nombreux dans les rues de Paris cet après-midi. Les médecins libéraux en grève depuis lundi, rejoints par les étudiants et les internes, défilent contre plusieurs mesures du budget de la sécurité sociale, dénonçant les attaques envers la médecine libérale. On en parle avec notre invité en studio, Johan Sénac, vice-président du syndicat MG France. Nous ne voulons pas être américains. Les partis politiques groenlandais serrent les rangs dans une déclaration commune aujourd'hui, quelques heures après les nouvelles menaces de Donald Trump, le président américain, qui a répété hier face à des journalistes à la Maison Blanche qu'il comptait aller jusqu'au bout sur son intention d'acheter le Groenland pour empêcher les Russes et les Chinois de s'en emparer.
Nous allons faire quelque chose au Groenland, que ça leur plaise ou non. Parce que si on ne le fait pas, la Russie ou la Chine vont s'en occuper et on ne veut pas de la Russie ou de la Chine comme voisins. Par ailleurs, je suis fan du Danemark. Ils ont vraiment été sympas avec moi. Mais le fait qu'ils aient débarqué là-bas avec un bateau il y a 500 ans ne veut pas dire qu'ils possèdent le territoire. Nous en avons besoin. Parce que si vous regardez autour du Groenland, aujourd'hui, il y a des navires de guerre russes, des navires de guerre chinois, des sous-marins russes partout. On ne peut pas avoir la Russie ou la Chine qui occupent le Groenland. C'est ce qu'ils vont faire si on ne le fait pas. Donc on va faire quelque chose avec le Groenland, soit avec la manière douce, soit avec la manière forte.
Donald Trump à la Maison Blanche hier soir. Alors, Jérôme Mohamed, à Nuuk, capitale du Groenland, cette nouvelle sommation de Donald Trump fait vivement réagir les habitants.
Mais pour qui se prend-il? Voilà la réaction assez spontanée d'un habitant de Nuuk qui découvre cette nouvelle déclaration. Pour ce père de famille qui traque sur les réseaux sociaux les moindres fake news du président américain pour les dénoncer, Donald Trump ment encore une fois. Si nous étions sur le point d'être envahis par les Chinois et les Russes, on le saurait, disait-il. Ce ton très péremptoire de Donald Trump passe de plus en plus mal ici, d'autant que les Groenlandais ont l'impression d'être restés, eux, toujours très courtois, ouverts au dialogue et à de nouveaux accords avec les États-Unis. S'ils veulent plus de bases militaires ici ou un accès à nos minerais, c'est négociable, m'expliquait une membre des démocrates, partie du premier ministre groenlandais. Mais faire du business, c'est une chose. Vendre notre terre, c'en est une autre. Et même quand il s'agit d'affaires, il y a des règles, un respect à avoir entre partenaires, insiste de son côté un entrepreneur. Tous attendent désormais une réponse ferme du Danemark face à cette nouvelle attaque vécue comme une insulte ici à Nuuk. Un rendez-vous est prévu la semaine prochaine. On ne sait pas encore dans quel format. Rendez-vous entre des représentants danois et Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.
À Jérôme Mohamed, envoyé spécial au Groenland. Alors en attendant la réponse ferme du Danemark, la ministre du Groenland en charge de la justice, de l'économie et des ressources minérales, Naya Nathanielsen, a réagi ce matin chez nos confrères de France Inter.
Eh bien, bien sûr, c'est très effrayant pour les personnes du Groenland. Nous n'apprécions pas du tout ce type de discours. Nous récusons cette idée d'acquérir le Groenland comme si c'était un bien ou de l'envahir par la force militaire. Nous sommes un petit pays. Nous comptons sur l'ordre international, sur le droit international et le dialogue. Pour nous, le seul chemin viable pour avancer, c'est celui-là. Et nous voulons être Groenlandais. Nous n'avons aucune envie de devenir Américains. Nous ne sommes pas non plus Danois. Nous voulons être reconnus en tant que peuple et en tant que pays, même si nous sommes très petits.
Naya Nathanielsen, ministre du Groenland, territoire autonome danois, est donc membre de l'OTAN, tout comme les États-Unis. Une attaque américaine sur ce territoire sonnerait donc le glas de l'alliance militaire transatlantique, vieille de 76 ans. Menace réitérée donc envers le Groenland, mais également envers l'Iran. Hier soir, l'Iran, qui a de gros problèmes, a lancé Donald Trump, menaçant les autorités iraniennes d'intervention américaine si elle commence à tuer des personnes. Alors que de nouvelles manifestations contre le pouvoir ont eu lieu hier soir, notamment à Téhéran, au 13e jour du mouvement de contestation. Au départ contre la vie chère et jugée légitime par le pouvoir iranien, cette contestation est désormais politique, attisée notamment par le fils du dernier shah, Reza Pahlavi, qui appelle à manifester. Étienne Monin, le régime iranien semble donc entrer dans une phase de répression.
Visiblement, on est entré dans une phase de confrontation. Les rassemblements se sont poursuivis hier soir. D'après l'ONG RANA, qui suit la situation de près depuis l'étranger, 180 villes se sont soulevées après presque deux semaines de contestation. Malgré le blocus des communications, quelques vidéos parviennent à sortir. L'agence de vérification de Radio France a établi que les slogans ou les actions des manifestants étaient tournés maintenant contre le régime. À Kamiyé, par exemple, une statue du général Soleimani, qui symbolise le pouvoir des gardiens de la révolution, a été mise à terre. Des slogans contre l'ayatollah Khamenei ont aussi été authentifiés. Depuis hier, le pouvoir répond ouvertement par la répression, comme ici à Kagan, avec des tirs qu'on entend. D'après l'ONG RANA, 50 manifestants et 14 membres des forces de l'ordre ont été tués. Plus de 2300 personnes ont été arrêtées. Aux États-Unis, le fils de l'ancien shah, Reza Pahlavi, qui se présente comme la figure de l'opposition, a appelé les manifestants à prendre les centres-villes. La pression est aussi venue du président américain. Donald Trump a menacé le régime hier soir s'il commençait à tirer. En 2019, la répression des manifestations avait fait 1500 morts.
Étienne Monin, hier soir, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz ont condamné fermement le meurtre de manifestants et les violences commises par les forces de sécurité en Iran, appelant les autorités à faire preuve de retenue. Des Européens en ordre beaucoup plus dispersés face à Grok. L'intelligence artificielle du réseau social X et à sa fonction de création d'images de personnes dénudées. Le ministre en charge de la souveraineté numérique, Roland Lescure, salue un premier pas. Quand Downing Street parle d'une mesure insultante pour les victimes après la désactivation partielle hier de cette fonctionnalité, désormais réservée aux abonnés payants. Une fonction qui permet de dévêtir des personnes à partir de photos et vidéos et qui a généré une pluie de critiques ces derniers jours. Mais à Bruxelles, Roman Sage, eh bien la Commission européenne juge ces modifications insuffisantes.
Abonnement payant ou non, cela ne change pas notre problème de fond. Nous ne voulons pas voir de telles images. C'est ce qu'a déclaré Thomas Régnier, le porte-parole de l'exécutif européen pour les affaires numériques. Lui-même choqué par la découverte de nouvelles fausses images sexualisées de filles mineures, âgées de 11 à 13 ans. L'exécutif européen a donc pris une ordonnance de conservation, c'est-à-dire une mesure juridique qui impose au réseau social X de garder pendant au moins un an des documents internes relatifs à Grok, l'intelligence artificielle, ce qui permet au service de la Commission d'enquêter sur la plateforme en accédant à ces documents. Une enquête ouverte depuis fin 2023 pour non-respect des obligations, notamment en ce qui concerne les contenus illégaux et de désinformation. L'an dernier déjà, tous les documents internes sur les algorithmes ont été gardés sous son injonction. Une décision prise après plusieurs provocations émises par Elon Musk et des soupçons de manipulation du débat public par le réseau social en Europe. Parallèlement à cette enquête, la plateforme s'est vue infliger une amende de 120 millions d'euros début décembre, ce qui a provoqué la colère de Donald Trump. Le président accuse régulièrement le bloc européen de malmener les champions américains, géants du numérique.
Roman Sage, et j'ajoute que Grok vient tout juste d'être suspendu en Indonésie en raison de contenu pornographique. La médecine libérale ne répond plus. Les médecins libéraux en grève depuis le début de la semaine appellent à une large manifestation cet après-midi à Paris pour dénoncer une dérive autoritaire du système de santé et l'étatisation de la médecine libérale. Une grève portée par l'ensemble des syndicats représentatifs dont MG France, premier syndicat de médecins généralistes dont vous êtes le vice-président. Johan Sénac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur France Culture. Alors une semaine après le début de la grève, où en est la mobilisation? Arrivez-vous à la quantifier? D'après les derniers chiffres de mardi, il me semble, l'activité a reculé de 19% chez les généralistes, 12% chez les spécialistes.
En fait, c'est assez difficile de vous donner des chiffres précis parce qu'en réalité, les modalités de la grève sont très diverses d'un professionnel à l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une adhésion massive à l'indignation qui se traduit à travers ce mouvement et qu'on a le soutien de l'immense majorité des confrères, mais aussi des patients, puisqu'on en discute avec les patients et qui nous témoignent aussi de ces préoccupations qui peuvent être communes.
Votre mobilisation depuis lundi est prévue jusqu'au 15 janvier. Elle pèse hein, sur les services d'urgence et le SAMU qui sont saturés. N'avez-vous pas peur de mettre encore plus sous tension le système hospitalier en pleine épidémie de grippe?
Ce qui est certain, c'est que nécessairement, il y a des conséquences à une grève et qu'on l'a fait, j'allais dire, de manière très responsable. C'est pour ça que je vous parlais de modalités de grève qui étaient diverses. On assure une forme de continuité dans les soins. Et donc, moi, typiquement, cette semaine, il y a des jours où j'étais en grève complète, d'autres jours où j'ai quand même dû voir des patients, comme hier, par exemple. Donc, on le fait en responsabilité. Mais il nous semble que l'heure est grave et qu'on doit témoigner d'un message qui doit être entendu. Ça passe par une grève, nécessairement.
Pour quelles raisons l'intersyndicale refuse de rencontrer la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui a proposé cet après-midi un rendez-vous en marge de la manifestation?
Alors, pour commencer, je dirais que nous, on ne souhaite pas personnaliser, j'allais dire, cette colère. Le sujet, ce n'est pas Madame la ministre Stéphanie Rist. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des options pour pouvoir sortir de cette grève? Est-ce qu'il y a des actes politiques qui peuvent aujourd'hui nous être présentés? Et à ce stade, la réponse semble être plutôt non. Donc, on n'a pas jugé nécessaire à l'heure actuelle, là, de se rendre à cette rencontre.
Alors, les raisons de votre colère hein, sont multiples. Vous êtes opposé, on le rappelle, à plusieurs mesures du projet de budget de la Sécurité sociale, du budget tout court de la Sécurité sociale, notamment la surtaxation des dépassements d'honoraires, l'obligation de remplir le dossier médical partagé aussi. Sur ça, vous avez obtenu gain de cause. Et par ailleurs, la ministre de la Santé, justement, a dit écarter dans une lettre une autre mesure très contestée, à savoir la possibilité donnée à l'assurance maladie de fixer unilatéralement des tarifs médicaux dans certains cas. Ça ne vous suffit pas? Vous ne lui faites pas confiance à la ministre?
Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une telle instabilité politique qu'on ne peut évidemment pas, j'allais dire, tolérer une rupture d'un principe qui est fondateur de la sécurité sociale, à savoir le paritarisme, la négociation, le dialogue social. Donc nous avons évidemment entendu le fait qu'elle ne souhaitait pas avoir recours à cet article, à cette possibilité. Néanmoins, je crois qu'on doit être au 10 ou 11e ministre en très peu quelques années, là, donc vous comprenez que ça n'est pas de nature à nous rassurer. Et puis, encore une fois, il y a une entorse au principe, et ça n'est pas acceptable.
Comment ça, une entorse au principe?
Bien, en fait, par tous les moyens, il y a une volonté de contourner le dialogue social. Donc, sur cette mesure-là, par exemple, le fait que le directeur général de l'assurance maladie puisse prendre des décisions unilatéralement, ça exclut de fait, ça crée une asymétrie telle dans le dialogue social qu'en réalité, le dialogue social n'est plus du tout présent. Il est là plus que pour la forme, si vous voulez. Les tarifs doivent être négociés. Les corps intermédiaires, MG France en est un. Les spécialistes en ont aussi d'autres qui sont représentatifs. Les syndicats, tout simplement, qui négocient, ils le font en responsabilité. Et donc, on doit pouvoir aboutir à s'agissant par exemple de la réévaluation des actes, à une forme de consensus. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver, en réalité.
C'est ce point-là, aujourd'hui, qui cristallise particulièrement votre colère?
Non. Pas uniquement. Je vous dirais qu'en médecine générale, on est pour le moment assez peu exposé à ce risque. En revanche, nous, on a une crainte énorme vis-à-vis d'un projet de loi gouvernemental qui est en cours d'examen au Parlement, qui a déjà passé le Sénat, et qui propose, en gros, je vais le dire de manière très simple, mais d'exposer de manière, sans recours possible, les médecins à des amendes massives si l'assurance maladie jugeait leur prescription déviante. Ça peut être le cas sur les arrêts de travail, mais sur d'autres éléments. Et ça nous, sur n'importe quelle prescription en réalité. Et donc ça nous semble être de nature très dangereuse. C'est une remise en question de l'indépendance de l'exercice médical. Et ça fait peser le risque d'une médecine de quota en réalité, puisque une fois qu'on aura épuisé, entre guillemets, la moyenne acceptable aux yeux de l'assurance maladie, ça expose chaque médecin à des poursuites et à des amendes hein, qui peuvent pour une première fois par exemple s'élever à 8000 euros. C'est pas anecdotique.
Merci beaucoup, Johan Sénac. Je rappelle que vous êtes président du syndicat MG France et médecin généraliste aussi à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Merci également à Aloïs Guérin pour la préparation de cet entretien. Une opération des forces de l'ordre près de Bordeaux ce matin pour débloquer le dépôt de carburant de Bassens, un dépôt occupé depuis mercredi par des membres de la coordination rurale. Une cinquantaine d'agriculteurs ont ainsi passé une nouvelle nuit sur le site, malgré l'annonce hier d'un paquet de mesures par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, standards pour répondre à la colère agricole, avec notamment le doublement du fonds d'indemnisation de la dermatose bovine porté à 22 millions d'euros. Le temps cet après-midi alternera entre éclaircies et passages nuageux du nord-ouest à la Bourgogne. Les averses seront nombreuses du sud-ouest au massif central et les chutes de neige persistent sur l'est. 6 départements sont toujours en vigilance orange pour neige-verglas. Les maximales affichent 0 à 4 degrés sur la moitié nord, 4 à 10 degrés sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia et Anthony Thomasson à la technique.